Homo urbanicus.
Les mains ont la parole, Éric Deuter, bonjour. Les mains ont la parole, c'est un bien joli slogan qui va résonner sur l'antenne d'Allegre FM pendant toute cette semaine. Plusieurs émissions vont en effet célébrer le geste de celui ou de celle qui, entre création unique et œuvre en quelques exemplaires, met un suffixe au mot art. De notre côté, parce que c'est notre vocation de parler d'architecture, nous allons nous intéresser aujourd'hui au lieu qui rassemble ces artisans à Paris et en proche banlieue. Paradoxalement, c'est avec un lieu plutôt dédié à l'industrie que nous allons débuter, puisque nous nous rendrons au Mosinor, un nom bien étrange, pour ce qu'il se voulait un hôtel industriel en hauteur lors de son édification dans les années 1970. Nous ferons ensuite quelques pas en dehors de notre studio, à quelques numéros de nos locaux. Nous avons en effet rencontré un des résidents historiques du 37 bis, rue de Montreuil, plus connu sous le nom de Cour de l'Industrie. Ce lieu chargé d'histoire accueille une cinquantaine de ces artisans auxquels Aligre s'intéresse cette semaine. Pascal Dutertre, vous êtes notre architecte maison et avec vous, nous visiterons d'autres lieux accueillant l'artisanat en ville.
Oui Eric, à Paris mais aussi à Lyon, nous verrons s'il y a une architecture et un urbanisme particulier liés à l'artisanat en ville.
C'est en fin d'émission que nous vous retrouverons Pascal.
Homo urbanicus.
Erwan Bouloud, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez dans un étrange... Enfin, plus exactement, vous travaillez dans un étrange lieu, vous êtes ébéniste, vous travaillez dans un étrange lieu qui s'appelle le Mosinor. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà, cet acronyme, ça correspond à quoi?
Mosinor, ça veut dire Montreuil, zone industrielle nord.
Alors, décrivons-le un petit peu. On l'a dit dans l'introduction de cette émission, c'est un immeuble qui a été érigé dans les années 70, qui a été terminé en 1975. Et deux architectes, Gilbert Paul Bertrand et Claude Le Goas, sont venus imaginer une sorte d'hôtel destiné à accueillir des entreprises à une époque où les emplois fuyaient Montreuil, parce que c'est à Montreuil qu'on se trouve.
Oui, 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 c'est ça. Bah, c'est un très gros bâtiment en béton, type brutaliste un petit peu, qui est assez joli d'ailleurs, et qui se veut une sorte de zone industrielle verticale.
Alors c'est joli aussi parce que il est surplombé de larges terrasses végétalisées.
Oui, ouais, ouais. Il y a pratiquement un parc en haut avec des arbres, des pelouses. Et une belle vue à 360 degrés sur Paris.
Alors, comme vous disiez, c'est un bel immeuble. C'est un bel immeuble qui s'inscrit aussi dans un urbanisme, l'urbanisme montreuillois. C'était du moins ce qui était prévu dans les années lorsqu'il a été érigé, c'est que ça s'insère harmonieusement dans Montreuil.
Bah oui, oui, ça s'insère bien. Après, bon, bah, ça a beaucoup bougé depuis les années 70. Hein. Le Montreuil s'étend un petit peu. Là, il y a le tramway qui va passer juste en dessous. Donc, bon, entre l'implantation de l'époque et actuellement, ça n'a plus grand-chose à voir. Mais ça s'intègre très bien.
Alors, parlons un petit peu de vous, Erwan Bouloud. Vous êtes ébéniste. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes installé au Mosinor?
Alors, moi, je suis pas exactement ébéniste, je travaille plus le métal, mais bon, je fais du mobilier d'art, donc, je comprends. Je suis à Mosinor depuis 2016.
Alors, qu'est-ce qui vous a fait venir dans ce lieu? Parce que, précisons-le, aujourd'hui, on parle d'artisanat, vous êtes vous-même artisan, mais à l'origine, cet hôtel industriel était prévu pour accueillir des entreprises. Et il y en a quelques-unes, il y a une entreprise qui fait de la transformation, qui fait de l'apport de surface, il y a une entreprise qui distribue des boissons. Vous n'êtes pas que des artisans dans cet hôtel industriel.
Non, on n'est pas que des artisans. Je pense à la base, c'est pas vraiment prévu pour les artisans. Les lots sont assez grands. Moi, j'ai un 2000 lots et ça fait déjà 700 mètres carrés pour vous dire la taille des autres lots. Et moi, ce qui m'a fait venir, c'est je suis montreuillois déjà, et j'avais un atelier ailleurs qui était devenu trop petit, donc j'ai demandé à la mairie qu'est-ce qu'il y avait de disponible, et ils m'ont aiguillé vers Mosinor, et c'est comme ça que je suis arrivé là.
Alors, est-ce qu'il y a une véritable vie dans cette, cette grosse structure? Parce que, expliquons-le, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un bloc en béton. À l'intérieur, il y a des cheminements, permettant la livraison pratique par des, camions. Il y a des rampes. C'est quelque chose qui est loin du petit atelier style industriel dont on ferait bien un loft.
Ah ouais, c'est assez loin. Oui, il y a deux rampes, c'est un peu comme l'escalier de Chambord, il y a une rampe qui descend, une rampe qui monte et qui se croise jamais, et on peut monter jusqu'au quatrième étage en poids lourd, et avec pour chaque atelier un quai de déchargement. Enfin, c'est extrêmement pratique, en tout cas, c'est-à-dire que nous qui nous faisons pratiquement tout livrer c'est vraiment très très adapté.
Alors c'est pratique, mais est-ce qu'il y a une vie intérieure à ce Mosinor? On va le découvrir tout à l'heure avec l'atelier qui est proche de nos locaux, là, le 27 bis rue de Montreuil. Il y a une vie d'atelier. Est-ce que vous aussi vous avez une vie au Mosinor? Est-ce que vous fréquentez les uns les autres? Est-ce qu'il y a je ne sais pas, des actions entreprises, des portes ouvertes?
Oui, on fait les portes ouvertes en général au mois d'octobre. Après, c'est les portes ouvertes des ateliers d'artistes de Montreuil. Donc après, à Mosinor, tout le monde n'ouvre pas, évidemment. Après, on a un petit peu de vie commune, mais finalement, c'est ainsi fait qu'on se croise pas beaucoup. On potentiellement travaille les uns avec les autres quand c'est possible.
Par rapport à votre place à vous, artisan, dans la ville, on a vu et on verra encore que l'artisanat et l'industrie, on gêne le citadin. On fait du bruit dès le matin, il y a des bruits de scie, donc on est amené à s'éloigner de la cité. Est-ce que vous avez été confronté à ce genre de problématique? Parce que vous l'avez dit, vous faites donc des meubles, vous travaillez l'acier, et c'est une technique bruyante. Donc le rapport entre votre artisanat et le citoyen et l'habitant de la ville, ça se passe comment?
Ah bah là, il y a zéro problème. Hein.
Oui, là, en l'occurrence, au Mosinor, non. Mais peut-être
À Mosinor, il y a zéro problème. Nous, on peut travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ça ne dérangera jamais personne. Après, effectivement, quand on a un atelier type une boutique dans Paris, par exemple... Oui, ça pose beaucoup de problèmes. Et pas que pour le bruit, pour aussi la circulation, les livraisons, les enlèvements. Pour moi, c'est presque impossible.
Alors, à l'origine, le Mosinor était d'ailleurs desservi par une sorte d'autoroute.
Oui.
Il était réalisé sur une dérivation autoroutière.
Oui, on avait quasiment notre voie d'autoroute à nous.
J'imagine que ça a un tout petit peu changé depuis 1975. Aujourd'hui, vous diriez... Alors, il y a une petite question qui se pose quand on est artisan. Il y a une donnée qui est importante, c'est la lumière. Comment est-ce que votre atelier est éclairé? Est-ce que vous avez la lumière blafarde du néon industriel ou est-ce que vous avez une lumière naturelle?
Non, on a la lumière naturelle, on a des verrières, hein, c'est complètement vitré, c'est dans des inserts en béton qui sont comme une espèce de dentelle un peu brutaliste, mais on a beaucoup de parois vitrées, donc on a pas mal de lumière du jour.
La place de l'artisan en ville, vous la voyez comment depuis plusieurs années que vous travaillez, vous avez l'impression qu'il y a un retour de l'artisan, à condition qu'il ne soit pas bruyant, qu'il ne travaille pas à des heures où on a envie de dormir? Est-ce que vous diriez qu'il y a une espèce de tendance apparente, mais qui en fait n'est que dans le détail, ou est-ce que vous considérez qu'il y a un retour de l'artisanat dans la ville?
Je suis pas sûr qu'il y ait un retour, dans le sens où je pense qu'il est jamais vraiment parti. C'est sûr qu'il a diminué depuis toujours, mais j'ai pas l'impression qu'il soit en augmentation. En tout cas, je le trouve peut-être mieux accepté.
Dans quel sens?
Dans le sens où ce sont des métiers qui ont repris un petit peu leur lettre de noblesse et qu'on a moins tendance à vouloir les expulser vers la banlieue.
Une petite question qui est un petit peu en dehors de notre émission, mais qui a tout à voir avec notre semaine thématique. Le geste de l'artisan, comment vous qualifieriez l'artisan et son geste, ses mains qui ont la parole?
Ça, c'est une question difficile. Comment je le qualifierais? C'est surtout beaucoup de travail, hein. C'est du temps, c'est de la formation, c'est des années de confrontation à la matière. Je pense qu'il faut, avant d'avoir le geste juste, il faut peut-être une dizaine d'années de pratique, pratiquement quel que soit le métier.
On va inviter nos auditeurs à regarder le lien qu'on va mettre à disposition sur notre page, sur le site de la radio. Mais en deux mots, qu'est-ce que vous avez dit que vous travaillez le métal, vous faites des meubles, ce qui m'a fait vous appeler ébéniste faussement, mais vous êtes fabricant de meubles. Décrivez-nous un petit peu le type de meubles que vous faites, parce que c'est assez étonnant.
En fait, je fais un travail plus artistique qui dérive beaucoup sur le meuble. Je fais aussi de la sculpture, sculpture mobilier, luminaire, beaucoup, beaucoup en métal, bronze, laiton, enfin tous les métaux, alu, aussi en béton, en bois. En fait, on s'interdit aucun matériau, mais c'est vrai qu'on est plus spécialisé sur le métal. Après, c'est du mobilier qui est vendu en galerie. C'est des pièces uniques ou des pièces limitées, numérotées. Donc c'est quand même, c'est pas du mobilier commun qu'on s'achète pour tout le monde, quoi.
Alors, vous avez cité tout à l'heure le terme d'art. Alors, entre art et artisanat, où se trouve la frontière?
Dans le concept, je dirais. L'artisanat, c'est la partie fabrication. Pour moi, la partie artistique, elle a quelque chose de conceptuel qui peut échapper à l'artisanat.
Vous avez employé le pluriel tout à l'heure. Vous êtes plusieurs dans votre structure. Êtes à fabriquer ces fameux meubles, ces objets d'art.
Ouais, j'ai une dizaine d'employés.
D'accord, donc on peut voir là aussi qu'on est loin du petit atelier avec un individu comme on va pouvoir le voir aussi. C'est-à-dire que votre structure à vous, elle ne vient pas par hasard au Mosinor. C'est que vous avez aussi...
C'est en grandissant qu'on y arrive. Après, c'est l'histoire, c'est l'histoire de l'entreprise. Moi, j'ai commencé tout seul. Après, j'ai pris un apprenti. On était deux, puis trois, puis quatre, puis cinq, et six. Et après, évidemment, il a fallu qu'on déménage. Donc ça, mais c'est pas très différent, finalement, de quand on était deux ou trois, ou même tout seul. C'est juste la quantité qui diffère, la manière de travailler un petit peu aussi. Mais dans l'esprit, c'est quand même très proche.
Alors, on l'a compris, dans ce Mosinor, j'ai l'impression que vous vous sentez plutôt bien, Montreuil. Je vais vraiment inciter nos auditeurs à aller regarder ce que vous faites. Vous remercier du temps que vous nous avez consacré. Je rappelle, Erwan Mouloud, que vous êtes... alors, comment vous appelez? Fabricant de meubles en toute matière et sans limite à l'imagination, et que vous êtes résident au Mosinor à Montreuil. Merci encore.
Homo Urbanicus sur Aligre FM 93.1 et sur aligrefm.org.
Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous parlons d'artisanat. L'artisanat, celui qui fait avec ses mains, celui qui est qualifié pour le faire. Il y a un lieu à deux pas de notre radio. Nous, on se trouve au 42 rue de Montreuil et au 37 bis rue de Montreuil. Il y a un lieu qui s'appelle la Cour de l'Industrie. Nous sommes allés visiter la Cour de l'Industrie. Nous sommes intéressés principalement à l'histoire de ce lieu. Rencontre avec un des membres historiques des lieux.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Philippe Ménard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes peintre, sculpteur, vous travaillez dans les arts du spectacle. Et je vais vous demander où nous sommes.
Nous sommes donc dans mon atelier au 37 bis rue de Montreuil, qui est une cour artisanale relativement très ancienne.
Alors, elle rassemble aujourd'hui une cinquantaine d'artistes et artisans. On parlera tout à l'heure de la distinction. Et je suggère qu'ensemble, on commence par faire l'historique de ce lieu dont l'histoire documentée remonte à 1673.
Voilà, tout ce qu'on sait sur le départ, enfin un peu plus vieux, mais là, je n'ai pas de document qui relate le fait, mais on a toujours parlé des mousquetaires et du 37 bis. Il y a eu un restaurant juste à l'entrée qui était donc aux mousquetaires, et dans mon enfance, on parlait, puisque je suis né dans le quartier, on parlait d'une ancienne écurie des mousquetaires qui serait donc ici. Je cherchais où étaient vraiment les écuries, si c'était dans première cour, deuxième cour, troisième cour. Une archiviste, après avoir fait un peu l'historique, m'a dit que ce n'était pas des écuries, mais c'était le terrain d'entraînement des mousquetaires, sans doute les mousquetaires noirs, qui sont un petit peu plus bas dans le faubourg. Il y a une très belle ancienne maison qui est liée à ça. Et a priori, c'était du temps bien avant que ça soit construit ici. C'était une espèce de marais un petit peu embourbé où les mousquetaires venaient s'entraîner avec leurs chevaux. Voilà peut-être l'explication des mousquetaires et du 37 bis.
Alors ensuite, ça a été construit et on a construit ce qu'on appelle toujours une folie, la folie Titon, 1673. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors Maximilien Titon était un grand armurier du roi. Il s'est beaucoup, beaucoup enrichi. Il était même très riche. Et il s'est construit sur tout le quartier. Ça va quand même assez loin puisque ça va... Encore plus loin que la rue Titon, ça allait jusqu'à la rue des Boulets, donc ça prend quand même une bonne partie de ce quartier.
Alors pour les non-parisiens, la rue des Boulets, elle se trouve allez, à 300-400 mètres d'ici, pas loin de la place de la Nation, se trouve dans l'est de Paris, dans le 11e arrondissement.
Voilà, c'est le bord du 11e, le bord du meuble. On est très très proche du Faubourg Saint-Antoine, ce qui fait que la première des activités ici a été liée au meuble. Mais continuons sur la folie. Donc Monsieur Maximilien Titon s'est fait construire une folie, c'est-à-dire un petit château. C'était même pas pour y habiter. Il exposait tous ses achats, toute sa fortune. C'était plutôt un lieu de plaisance, une folie, quoi, où il y avait une orangerie, où il y avait des très beaux jardins, il y avait un jet d'eau. C'était vraiment classieux et c'était vraiment pour exposer les œuvres d'art qu'il avait acquises grâce à sa fortune.
Alors, rien à voir encore avec l'artisanat. Par contre, 1789, c'est une autre date qui est documentée. On voit qu'il y a ici, au 37 bis rue de Montreuil, l'incendie de la manufacture royale des papiers peints Réveillon, le 28 avril précisément. De quoi s'agit-il ?
Les héritiers de M. Titon ont petit à petit vendu les terrains, donc se sont séparés. Donc, il y a une entreprise, les papiers peints Réveillon, qui se sont installés ici. Et c'est pour ça qu'on dit que la Révolution française est partie un petit peu d'ici, car cet incendie a été lié aux émeutes de Paris, puisqu'il y a eu à un moment donné que des problèmes de salaire qui sont encore été reniés, que des problèmes que le pain, enfin c'est un peu compliqué tout ça, c'est un peu mélangé. Mais donc juste avant, c'était au mois de juin de 1789, ça a commencé justement à beaucoup remuer dans le faubourg. Il faut dire que le faubourg était quand même très 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 peuplé et relativement très misérable à l'époque. Donc évidemment, tout le problème de salaire était très important. C'était l'époque aussi où il y avait des rivalités entre des différents chefs de paroisse. Ces émeutes ont fait qu'on a incendié donc les usines Réveillon. Et c'est de là qu'est partie en effet la révolte de 1789, donc la prise de la Bastille, qui n'est pas si loin que ça. Et c'est un petit peu tout le faubourg qui est descendu en armes et tout ça. Pour ça qu'on se permet de dire qu'en effet, il y a des chances que la Révolution française a commencé au 37 bis. En petit oubli, on a oublié de parler de la Montgolfière parce que c'est ce qui nous donne pas mal d'iconographie aussi de ce que c'était un petit peu au départ. Et on sait que d'après les images qui ont été faites, les gravures qui ont été faites de cet événement, on a des vues donc de l'entrée, des images de l'entrée, et on sait que c'était à peu près en face de la rue Roubaud, qui est une voie carrossable qui a été créée pour que les carrosses puissent rentrer dans la folie Titon. Donc ça se situe vraiment au niveau de l'entrée du 37 bis. Donc on peut situer en effet le départ de la Montgolfière à peu près dans nos cours.
Alors cette Montgolfière qui aurait été faite à partir entre autres du papier Réveillon.
C'est ce qu'on dit. Ça par contre, on ne le sait pas vraiment. Ça fait partie de l'histoire qu'on raconte, puisqu'ici en effet il y avait un gros volume de papier de toute façon.
D'ailleurs, on va le voir avec vous, c'est un lieu plein d'histoire et d'une histoire récente. Mais continuons avec l'histoire ancienne. 1850, alors on va faire grâce aux auditeurs de la succession des propriétaires. On va s'arrêter à un propriétaire qui s'appelle Monsieur Ekeren, qui lui, en 1850, décide ici de faire une cité d'artisans avec au rez-de-chaussée des ateliers et au premier étage des logements.
Bon, c'était la tradition dans le faubourg, c'était donc d'avoir des ateliers en rez-de-chaussée et l'habitat à l'étage. Tout le faubourg était basé là-dessus, sur une cour fermée. On en trouve encore. Évidemment, maintenant, ça a beaucoup disparu. Il n'y en a plus que quelques-unes qui sont restées sur ce modèle. Mais c'était le modèle traditionnel. La famille était dans les étages, voire même d'ailleurs des ateliers qui étaient encore en étage. On voit sur certaines images les enfants en train de jouer dans les copeaux pendant que le père menuisier est en train de passer le rabot ou de monter un meuble, ce genre de choses. C'est en effet très traditionnel de mélanger l'habitat et la famille faisait partie vraiment du travail.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas seulement ici dans la cour de l'industrie, les cours de l'industrie d'ailleurs, on n'est pas seulement dans un simple atelier, on est aussi dans un lieu symbolique de l'évolution de la ville de Paris, de l'évolution de la place de l'artisan et de l'artisan Paris. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Ekeren, Racco, Duluc, ce sont les différents propriétaires qui se sont succédés au fur et à mesure de la vente et de la revente du lieu. 1942, Monsieur Jamais est le dernier propriétaire privé du lieu.
Oui, bah lui, il garde un peu le lieu dans son état, mais il fonctionnait encore à cette époque-là tout à fait bien. C'était une époque tout à fait où le faubourg était florissant au niveau de son artisanat, entre autres de mobilier. C'était le plus gros fabricant de meubles de France, a priori. C'était vraiment un travailleur qu'il y avait. De toute façon, dans le quartier, le travail des métaux qui correspondait aussi à la même activité. Un petit peu plus haut dans le 11e, il y avait aussi des laqueurs qui étaient un petit peu plus bas. Enfin, toute l'activité de cette époque était tournée vers le meuble et fonctionnait très bien encore à cette époque-là, ce qui fait que les cours étaient tout à fait florissantes dans ces années 1940, entre 30 et 60. Ça a très bien marché ici, il y avait une activité tout à fait débordante.
Et petit à petit, les lieux se dégradent, ils sont désuets, ils sont limite habitables. Mais en 1970, un certain nombre d'artistes investissent le lieu dans l'état où il est.
Bah, petit à petit, là, on en reparlera peut-être sur le mélange artisanat et la ville. Les ateliers ont moins bien fonctionné parce qu'il y a eu une concurrence avec la province. La cherté des loyers qui ont commencé à augmenter sur Paris. Les difficultés d'approvisionnement, enfin diverses et tout ça que rencontre l'artisanat. Donc petit à petit, les ateliers ont baissé en nombre, ont baissé en qualité, ont baissé en occupation tout simplement, donc ça a permis à certains artistes qui étaient à la recherche justement de locaux qui n'étaient pas très beaux, parce que petit à petit évidemment les immeubles ont été moins entretenus, le propriétaire comme il gagnait moins de loyers, ils n'augmentaient pas, mais donc tout ça commençait à décrépir, mais les artistes cherchant des locaux assez grands, bien éclairés, enfin ils ne sont pas tous bien éclairés, mais relativement grands, pas trop cher surtout au niveau des loyers, se sont dit c'est une aubaine, c'est un joli coin de Paris en plus, tout ce quartier du 11e, donc tout à fait propice à des sculpteurs par exemple, ou à des peintres, ou donc un certain nombre d'activités artistiques qui ont été tout à fait accueillies dans les cours avec plaisir. Le mélange avec les artisans s'est très bien passé relativement au départ.
Alors Philippe Ménard, 20 années passent, 1990, l'histoire du lieu correspond un petit peu à votre histoire à vous, en tant que peintre, sculpteur et artiste du spectacle. Vous, 1990, constitution d'une association, de l'association des cours de l'industrie, vous êtes déjà dans les lieux. Racontez-moi l'histoire, votre histoire personnelle à vous en connexion avec ce lieu.
Ben moi, je suis un enfant du quartier, puisque je suis né sur le Faubourg Saint-Antoine. C'est pour ça que je connais un petit peu tout ça. Et dans mes rêves, ça fait très longtemps que je me disais, j'aimerais bien avoir un atelier au 37 bis, mais a priori, ils n'étaient pas très libres ni rien. Et puis, il faut le savoir et tout ça. Et tout d'un coup, j'ai en effet appris qu'un atelier était libre et que je pourrais éventuellement l'acquérir. Mais plein de gens m'ont dit à ce moment-là, mais ne l'achète pas, ne prends pas le bail parce qu'il va être démoli. On parlait déjà d'opérations immobilières qui étaient... Monsieur Jamais était très, très, très vieux. C'est sa fille qui devait reprendre, mais elle n'avait pas envie de gérer le lieu vraiment. Donc, il y avait dans les bruits de cours, puisqu'on parle beaucoup de bruits de cours vu qu'on est dans des cours, l'idée de vraiment une opération immobilière qui mettrait relativement tout l'artisanat dehors, de faire une grosse opération, vu qu'on est quand même sur une belle, très, très, très belle surface pour Paris. Et donc, qui était assez simple, sur des bâtiments en plus vétustes, que de toute façon, ils devaient être rénovés. Donc, on m'a fortement déconseillé de prendre l'atelier. Mais en même temps, je me suis dit, qui ne fait rien n'a rien, tout ça. Donc, je me suis dit, je me lance et j'ai donc pris un atelier dans la troisième cour du 37 bis.
Pour préciser la surface, ça représente ici à peu près 6000 m², ce qui, pour un promoteur immobilier, était une manne. 1992, arrive un événement heureux à cette cour. Elle est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ça veut dire qu'on lui reconnaissait reconnaissait une valeur patrimoniale à ce lieu qui était en piteux état. D'ailleurs, il ressemblait à quoi, vous qui avez connu, on va révéler aux auditeurs, ce lieu a été entièrement rénové ensuite, mais à quoi ça ressemblait ce bâtiment, ces 6000 m² des cours de l'industrie?
Ce qui intéressait énormément les monuments historiques, c'était vraiment une cour qui était encore d'abord en fonction, c'est-à-dire qu'il y avait encore des artisans qui travaillaient dedans, des gens qui faisaient des meubles tout à fait d'une manière traditionnelle. Et c'est surtout, c'était une cour qui avait gardé sa disposition. C'est vraiment une petite rue qui chemine entre plusieurs bâtiments. On est entouré d'écoles ici. On retrouve le chemin des ateliers avec les écuries, des endroits où il y avait des chevaux pour justement transporter les meubles avec des carrioles. Il y avait vraiment des dispositions très particulières qui n'existaient plus du tout sur le faubourg. Les petites cours qui restent sont beaucoup plus rectilignes. Là, c'est vraiment tortueux. C'est une série de cours en enfilade. Donc, c'était vraiment très particulier et ça datait vraiment de l'époque. Ça n'avait pas bougé du tout à ce niveau-là.
Alors, 2001, patatras, la menace pointe son nez. On annonce qu'un promoteur immobilier est très intéressé par l'achat de ces trois cours.
Oui, déjà, dès que je l'ai pris, donc dans les années 90, on a commencé à se dire, si jamais on ne veut pas être viré manu militari, il faut commencer justement à voir si on peut travailler un petit peu avec les politiques pour essayer de protéger les cours qui sont en train de disparaître dans tout ce quartier, c'est quand même vraiment dommage parce que la population tient à garder, enfin moi-même étant du quartier, tient à garder vraiment ces ateliers, cette vie qui était très particulière de cette partie de Paris, quoi. C'était vraiment, ça donne une atmosphère très, très mélangée au niveau de la population entre justement travail et habitation, donc c'est très agréable à ce niveau-là. Et on a commencé donc à aller voir la mairie qui disait, mais en effet, c'est très important de garder ce lieu, cet artisanat, ce rapport justement avec les habitants qui est si riche et si intéressant. Et donc on a très vite reçu un soutien de la ville de Paris, enfin de la mairie du 11e d'abord, puis de la ville, qui s'est donc dit, si vente il y a, on va préempter. Seul problème à l'époque, c'est que la préemption a été mal faite un peu dans la précipitation et elle a été dénoncée, ce qui a entraîné une lutte entre guillemets d'une bonne dizaine d'années. Justement avec les risques de promotion, les ateliers qui ont commencé à être justement chassés dès qu'ils étaient un peu fragiles, dès qu'ils avaient des retards de loyer, on leur proposait une certaine somme pour qu'ils s'en aillent. Donc ça a été vraiment une petite lutte où on n'était vraiment pas sûr de gagner à l'époque. Et on doit remercier la ville qui a vraiment fait des efforts pour vraiment nous garder. De la Noé nous a vraiment dit aux promoteurs, ce petit coin de Paris sera à Paris.
16 janvier 2004, les cours de l'industrie sont préemptés par la ville de Paris.
Voilà, c'était le moment où on était sûr qu'on resterait à la ville de Paris. Après, c'était tout le problème était de savoir comment la ville, parce qu'évidemment elle n'a pas les mêmes normes que nous, allait rénover le lieu et savoir si on allait pouvoir continuer à exercer sans trop de problèmes.
Aligre FM 93.1.
Toujours sur Aligre FM, Homo Urbanicus vous parle aujourd'hui de la ville des artisans. Des artisans dans la ville, dans le cadre de notre semaine, les mains ont la parole sur Aligre FM. Nous sommes toujours avec Philippe Ménard à la Cité de l'Industrie et on continue avec lui l'histoire de ce lieu emblématique de la présence des artisans en ville.
On a évoqué tout à l'heure le rachat de ces cours de l'industrie par la ville de Paris en 2004. En 2008, la signature d'un bail de 40 ans avec la SEMAEST, hein, la société qui se charge d'exploiter le patrimoine immobilier, de le valoriser pour créer une activité économique. Et enfin, 2010, c'est le début de travaux. Et quels travaux ?
C'était très compliqué parce qu'il y avait beaucoup d'options, évidemment, parce que c'est une opération très compliquée. À faire, vu que tous les ateliers étaient occupés à l'époque, ou pas tout à fait, puisque je pense l'avoir dit tout à l'heure, il y avait déjà des ateliers qui avaient été, où on avait supprimé les locataires pour justement aider une opération immobilière autre que celle de la ville. Donc il y avait quand même une partie des locaux qui était disponible, et ce qui nous a permis avec la CMS, de commencer justement à prévoir des travaux en milieu occupé. Parce que l'option, c'était, on s'en va tous ailleurs, mais on avait un petit peu peur, en étant tous déménagés, que le lieu ne retrouve pas sa destination. Si on va installer nos activités ailleurs, jamais on n'arrivera à reprendre celle-là. Les cours du 37 bis vont disparaître.
À cette époque-là, de quoi était faite la population des cours de l'industrie ? Est-ce qu'il y avait la même diversité qu'aujourd'hui ? Aujourd'hui, allez, on va citer quelques-uns des métiers. Il y a des restaurateurs d'œuvres sur papier, des encadreurs et des encadreuses, des menuisiers et des menuisières, des ébénistes, des céramistes. Il y a quelqu'un qui fait de la conception typographique, de l'imprimerie, du design textile, du soclage, de la tapisserie, de la coiffure et des perruques, de la photographie, des luthiers et luthières, des sculpteurs, dont vous faites partie puisque vous êtes sculpteur et peintre. À l'époque, est-ce qu'il y avait une telle diversité, un tel foisonnement des métiers ?
Oui, ça a très peu changé. Il y avait déjà l'artisanat vraiment de base de bois était déjà un petit peu disparu dans notre cours, malgré que ça reste quand même un des groupes pôle principal d'activité, mais ça a toujours été très diversifié dans l'artisanat qui est venu ici. Et comme c'est de toute façon très très dur de trouver des ateliers dans Paris, les gens qui ont défendu le lieu, évidemment, ont gardé à peu près tous leurs ateliers. Donc c'est vraiment que les gens les plus âgés ou etc. qui ont libéré l'atelier, et puis certains qui sont arrivants, qui sont venus, qui ont rajouté un petit peu d'autres activités, puisqu'on a aussi défendu la diversité de ces activités qui est vraiment bienvenue dans nos métiers.
18 millions d'euros de travaux pour ces 6000 mètres carrés. Comment se passe la vie de cet atelier pendant ces 7 années de travaux ?
Oh, c'est l'enfer quand même, il faut bien le reconnaître. Et pour l'entreprise des travaux, pour qui ce n'est pas facile évidemment, parce que c'est très complexe pour elle de respecter nos allées et venues, ne serait-ce que ça, nos demandes de livraison, de pouvoir passer pour livrer nos matériaux, recevoir aussi, y compris des clients, de la clientèle et tout ça. Mais par contre, c'est quand même un chantier, donc il y a de la boue partout, il y a du bruit partout, de la machinerie, des bulldozers, enfin, des problèmes d'eau, d'électricité, divers et variés. Donc c'est très complexe. Et puis évidemment, chaque fois qu'un atelier est en rénovation, il doit déménager. Donc c'est pas toujours facile de réinstaller une activité dans un atelier qui n'est pas forcément prévu pour.
Quel était le projet de l'architecte Jacques Méninger lorsqu'il vous a été présenté ? Vous connaissiez les ateliers anciennes manières, désuets, voire vétustes. Quelle était l'idée de l'architecte ? Le respect, la rénovation, le changement, la modification, l'adaptation ?
Ce qui nous a plu avec cet architecte au départ, c'est qu'en effet, il n'avait pas du tout l'idée de tout mettre à bas et de bétonner. Il voulait garder quand même quelque chose qui ressemble à ce que c'était. Donc ça nous a beaucoup satisfait parce qu'au départ, les premiers échanges qu'on avait eus, c'était diversifié, mais était beaucoup sur quand même démolition et reconstruction. Alors que là, on a tout a été essayé de garder en majorité. Quoi. Il n'y a vraiment que quelques parties qui ont disparu. On a gardé vraiment les vieilles paires qui étaient peut-être déjà de la folie Titon quand même. Il y a quelques endroits où on se dit « Ah, ça doit être quand même de la folie Titon ».
Alors c'est peut-être le moyen de décrire votre atelier. Là, moi, je fais dos à des grandes baies vitrées. Ben, je vais vous laisser le décrire. Alors c'est très habité, évidemment. On est entouré de vos peintures, de vos sculptures, de vos décors de théâtre, parce que vous êtes également scénographe. À quoi il ressemble cet atelier en forme de L ? Décrivez-le pour nos auditeurs.
Là, l'intérêt de cet atelier, c'est qu'il est en L, donc ça permet d'avoir un petit peu des parties plus travail soigné, type peinture ou genre de choses, et puis dans des endroits qu'on peut plus facilement séparer, où ça peut être plus du plâtre ou des choses un petit peu plus sales, ou de la ferraille ou du bois. Donc ça permet un peu de séparer les espaces, ce qui est assez pratique. C'est un rez-de-chaussée en plus, c'est quand même pratique pour les livraisons, c'est ou de faire des grosses pièces. Là, je fais beaucoup moins de décors de théâtre, mais j'ai fait des décors dans ce petit atelier, des accessoires, ce genre de choses. Donc, c'est tout à fait possible à faire, même dans un petit atelier comme ça.
Alors, il y a les ateliers du rez-de-chaussée, mais il y a aussi les ateliers du premier. En quoi est-ce qu'ils se différencient ?
Pas mal d'activités maintenant demandent quand même un petit peu de matériel soigné, c'est-à-dire ordinateur ou ce genre de choses de travail sur en effet des logiciels et tout ça. Donc ça permet justement d'avoir une petite pièce à l'étage par exemple pour avoir ce genre de matériel et de continuer une activité disons plus manuelle en rez-de-chaussée. Donc c'est vrai que cette dualité est tout à fait intéressante et qu'on a essayé de justement négocier avec l'architecte et la céméiste.
Tout à l'heure vous parliez de bruit de cour qui est l'équivalent des bruits de couloir. Est-ce qu'il y a une véritable vie de cour ici ? Alors aujourd'hui, précisons-le, le temps n'est pas au beau, donc il y a quasiment personne dans la cour. Est-ce qu'il y a une vie de cour, si j'ose dire, dans la cour de l'industrie ?
Oui, par logique, parce que tout le monde d'abord, on se connaît tous et on n'est quand même qu'une cinquantaine, donc enfin... cinquantaine d'ateliers, donc ça fait à peu près 100 personnes quand même, grosso modo, parce qu'on est rarement seul dans son atelier. Mais on se connaît tous, et puis dès qu'il y a besoin de quelque chose, on peut facilement les demander à son voisin s'il n'a pas, j'allais dire, une clé de 12. On n'utilise pas tellement de clés de 12, mais d'un petit bout de bois, d'une technique particulière qu'on n'a pas, ou un petit peu de pigment, ou ce genre de choses. C'est vrai qu'on se peintre en décor, moi j'avais pas beaucoup de pigments et de temps en temps ben, mes amis ébénistes ont aussi besoin de certains pigments, donc dans ce cas-là il y a des échanges tout à fait logiques et normales. C'est plutôt un lieu très convivial, on fait quand même un petit peu de repas ensemble pour maintenir une camaraderie, une franche cohésion de nos métiers.
Nous sommes en 2023, 2001 c'est une autre époque, c'était quasiment un autre siècle, y compris en ce qui concerne l'immobilier. Il y a eu une volonté très forte de la mairie à l'époque, vous l'avez dit, et la mairie l'a prouvé en rachetant ce lieu de 6000 m². Il y avait une volonté très forte de la mairie d'intégrer ces anciens ateliers. Est-ce que vous diriez que ça fait partie d'une volonté de la ville de garder dans ses murs ce qui en avait disparu, à savoir le travail manuel ?
Oui, on a vraiment eu là un partenariat avec la ville, dans le sens qu'on a réussi à vraiment participer, à sauvegarder la sauvegarde de nos métiers de la main. On a expliqué qu'en effet, il y a plein de métiers qui peuvent s'exercer ailleurs dans Paris, en logement, en étage et tout ça. Mais par contre, certains métiers font du bruit, font des nuisances. Le travail du bois fait des nuisances, le travail de la pierre aussi. Et ça, c'était vraiment des endroits spécifiques celle qui restait encore au 37 bis, puisque c'était encore une cour en exercice. Toutes les autres cours qui étaient justement dans le faubourg ont finalement été tuées par la mixité avec de l'habitat, où forcément la personne qui habite là avec ses enfants n'a pas envie d'être réveillée à 7h du matin avec une scie sauteuse ou une scie à ruban ou ce genre de choses. Donc la mixité est très difficile, alors que dans ces cours-là, on s'est dit il faut absolument pas d'habitation, il faut vraiment privilégier les métiers qui ne peuvent pas se faire ailleurs. pour ça qu'on a vraiment demandé à la ville de surveiller que ça soit ce qu'on appelle, nous, des métiers de la main qui sont vraiment... Parce qu'il y a d'autres métiers manuels, mais les garagistes sont des métiers manuels. Mais on disait, là, il y a vraiment un savoir-faire qu'il faudrait garder, qui est encore existant dans nos cours et qu'il faut préserver à tout prix.
Vous naviguez beaucoup entre deux termes, l'art et l'artisanat, peintre, sculpteur, c'est plutôt artiste. Vous définissez comme artiste ou comme artisan ?
Oh bah moi, je fais vraiment partie des gens qui sont entre les deux. Je suis peintre en décor, donc j'ai plus travaillé et gagné ma vie en travaillant pour le théâtre, le cinéma ou divers décors ou des fresques particuliers ou pour la ville. Mais en même temps, c'est vrai que c'est très difficile, très souvent, de faire une frontière entre un artisan d'art qui fait des choses sublimes, qui est un sculpteur et tout ça, et le tâcheron qui va être aussi faire de la sculpture sur meuble, mais qui lui est moins artistique, on va dire, qui fait plus de la répétition. Mais je pense que c'est une frontière qui n'a pas lieu d'être, enfin personnellement. Alors c'est vrai que pas mal d'artisans se réclament vraiment de l'artisanat et regarder un petit peu de haut les artistes qui... Enfin, de temps en temps, il y a eu un dédain de part et d'autre, mais au 37, en tout cas, on a vraiment réussi à faire que, justement, on s'aide les uns les autres et qu'on participe d'un même métier, entre guillemets. Moi, je vois très peu de différence entre l'art et l'artisanat.
Alors, quand vous dites 37, c'est 37 bis rue de Montreuil, dans le 11e arrondissement. Aujourd'hui, être artiste, ça veut dire disposer d'un lieu. Vous seriez, alors on ne va pas donner votre âge, mais on peut dire que ça fait quelques temps que vous exercez, qu'en 90 vous étiez déjà à maturité de votre art. Est-ce qu'un jeune artiste débarquant aujourd'hui a besoin d'être riche pour avoir un lieu à lui?
C'est un petit peu là du consensus qu'on a avec justement la CMS, c'est qu'au départ on voulait vraiment que les prix restent très bas pour permettre à des jeunes qui démarrent, et c'est quand même assez cher, il faut bien le dire, pour démarrer. On n'a pas réussi à maintenir, à mon sens, un niveau de loyer qui permette à quelqu'un qui débute de vraiment s'installer ici. À voir, les gens qui arrivent sont plus des gens établis qui ont un petit peu de rentabilité déjà dans leur métier. Donc mais il y a la pépinière quand même sur le Faubourg, qui est au 30 rue du Faubourg, où des jeunes peuvent un peu démarrer. Ça, c'est quelque chose de très bien qui avait été fait aussi par la ville à ce niveau-là. Mais oui, c'est très difficile pour les jeunes de trouver dans Paris. En plus, des ateliers dans Paris, il y en a maintenant très très peu.
Comment on préserve la spécificité de ce lieu sans le transformer en village gaulois de quelques artistes qui vont être visités par les tours opérateurs parce que c'est le dernier repère des artistes et artisans dans Paris? Comment on arrive à faire vivre et à maintenir intact l'esprit du lieu?
Bah, l'intérêt d'ici, c'est que c'est quand même suffisamment grand, donc ça permet quand même quelque chose de plus riche, entre guillemets. Et c'est surtout que le dialogue avec la ville a quand même très bien pris. Là, on peut vraiment féliciter la vision quand même de l'époque de M. Sard, de M. Delanoë, qui ont vraiment dit qu'il faut garder cette partie de Paris dans son sens primaire, qui était quand même l'artisanat, le quartier du meuble, du Faubourg Saint-Antoine. C'est quand même, c'est universel. J'exagère peut-être, mais c'est quand même quelque chose d'important, et ce qui colore vraiment ce quartier et tout ça. Donc là-dessus, c'est dommage, ça disparaît, mais ce qui existe en tout cas, et essayer un petit peu préservé quand même. Donc on a arrêté de le détruire, on essaye de garder quand même les espaces qui existent encore. Donc ça, c'est vraiment une volonté qu'on a réussi à partager avec la ville.
Philippe Ménard, pour conclure, vous le peintre, le sculpteur, comment vous vous sentez dans ce lieu? Est-ce que c'est un lieu favorable à la création?
Ah bah ici c'est superbe, tout le monde vous le dira, je ne pense pas être le seul à apprécier venir ici tous les matins. En plus je suis tout proche, j'habite sur le Faubourg, donc c'est vraiment un vrai bonheur, et tout le monde adore venir travailler ici, tout le monde nous envie de toute façon.
Philippe Ménard, merci.
Ils arpentent les rues et campaient sur les places, chargés d'objets obscurs, de graines ou bien de vent, proposant tout ou rien, et de bien peu vivants, leur grand cri appâtant, la veine populace. Ils arpentaient les rues et campaient sur les places. Oh combien je regrette leur voix et leur musique, leurs mains escamotant les piécettes d'argent pour service rendu à quelques bonnes gens, et leur air de se foutre de la chose publique. Oh combien je regrette leur voix et leur musique. Que sont donc devenus la rembailleuse de bar, le crieur de journaux et la loueuse de chaises? Où donc se sont perdus la cardeuse de matelas, l'aiguiseur de couteau et le sucreur de fraises? Qui donc les a revus, le vendeur de mourons, la porteuse de pain et le montreur de vue? Ils ont bien disparu, le grilleur de marrons, l'écorcheur de lapin et le chanteur des rues. Nos rues, on y trouvait aussi des colporteurs d'histoire et des marchands d'oubli. Et il y avait du rêve plein les petites voitures. On n'achetait pas que terrestre nourriture. Que sont donc devenus la faiseuse d'embarras, l'accordeur de violon et la teneuse de jambes? Où donc se sont perdus la liseuse de drap, l'ensommeilleur de plomb et le violeur de gambe? Qui donc les a revus, l'écriveur de tartines, la vorteuse de choux et le fouteur de guignons? Ils ont bien disparu, le lâcheur de vitrine, la bourreuse de mou et l'encaisseur d'oignons. Certains étaient tenus à l'écart de la foule, exerçant un négoce un peu plus inquiétant, facteur de basses œuvres et vendeur d'orviétan, artisan du frisson, expert en chair de poule. Certains étaient tenus à l'écart de la foule.
Les mains ont la parole sur Aligre FM.
Les mains ont la parole aussi sur Homo Urbanicus. Dans Homo Urbanicus, nous nous consacrons, dans le cadre de notre semaine thématique sur Aligre FM, aux bâtiments abritant les artisans. Pascal, nous avons visité tout à l'heure la cour de l'industrie qui a fait l'objet d'une opération ambitieuse de réhabilitation et de transformation. Vous-même, vous souhaitez évoquer d'autres lieux qui ont été marqués par l'activité artisanale.
Oui, il se trouve que mon bureau est situé près du Cirque d'Hiver à Paris, dans le 11e arrondissement, dans un immeuble où travaillaient des artisans. Ces ateliers sont presque tous occupés maintenant par des architectes, des artistes, des graphistes ou transformés en logements. Il s'organise en deux cours. L'une d'elles, la plus grande, est un rectangle entouré sur trois côtés par les bâtiments les plus hauts, trois ou quatre étages. Le quatrième côté longe un passage. Au milieu, il y a deux ruelles étroites qui desservent d'autres bâtiments plus bas. Ceux-ci sont essentiellement construits en ossature bois avec des remplissages de torchis et plâtre. Ce sont donc des constructions peu coûteuses, datant de la fin du 19e siècle, probablement lorsque ce faubourg aux portes de la ville historique a été urbanisé. Cet ensemble fait partie des cours d'ateliers qui ont résisté aux mutations urbaines. Il y avait des spécialités selon les quartiers, comme par exemple le faubourg Saint-Antoine, dont on en a parlé tout à l'heure. Tout un réseau de passages et de cours qui abritaient les ateliers d'ébénistes, menuisiers, connus aussi pour leur engagement politique révolutionnaire. Le plus souvent, depuis le 19e siècle, ces jardins ont été petit à petit remplacés par des maisons, des fabriques, des ateliers, des petites usines, elles-mêmes remplacées ensuite par des immeubles de rapport et de grands ensembles résidentiels dans les années 1960 et 70.
Alors on va reposer la question, est-ce qu'on peut parler d'un paysage urbain spécifique pour les quartiers d'artisans ?
Oui, même s'il s'agit d'un paysage souvent limité à quelques pâtés de maisons. En tout cas, on peut parler d'un tissu urbain, d'une échelle et d'une morphologie, voire d'une architecture propre à cette activité. On reconnaît les ateliers à leur gabarit, à leur verrière, à leurs fenêtres typiques avec ses vitres étroites et hautes maintenues dans de minces profils en acier. Il y a un paysage artisanal qui a complètement disparu de Paris, c'est celui de la Bièvre, cette petite rivière qui traversait le sud de la capitale et qui a été entièrement recouverte dans la deuxième moitié du 19e siècle. Ce ruisseau, séparé en deux cours, alimentait des moulins et des glacières. Il était utile aussi pour les tanneries, les mégisseries, les blanchisseries et les teintureries. Lorsque la Bièvre se jetait dans la Seine vers le pont d'Austerlitz, on imagine que l'eau n'était pas bien claire. Et nous avons de nombreuses photos qui montrent le micro-paysage offert par ce petit cours d'eau canalisé, bordé de toutes les installations propres à ses activités. Un paysage assez pittoresque, fait de séchoirs en bois, de lavoirs et de petits immeubles en briques, sans parler de la manufacture des Gobelins qui bordaient la Bièvre vive au niveau de la rue Croulebarbe. Il a été question de réhabiliter cette rivière, mais cela semble fort improbable.
Alors nous allons quitter Paris et nous rendre près de Venise, à Murano, exactement, où là aussi l'activité artisanale dominante a forgé un paysage urbain caractéristique.
Oui, c'est à la suite d'une loi que les verriers vénitiens et leurs fours ont été priés au Moyen-Âge de se déplacer sur cette île située dans la lagune au nord de la Sérénissime. Murano est une Venise en modèle réduit qui possède aussi son grand canal, un petit canal, c'est pittoresque et beaucoup moins monumental. La plupart des ateliers de verrerie se trouvent au sud et à l'est de la ville, de ce bourg, dans des bâtiments rectangulaires et allongés, plus ou moins grands et plus ou moins hauts, qui constituent un tissu urbain dense et compact, d'une architecture plutôt austère. Ce sont avant tout des ouvrages fonctionnels, même si les pignons donnant sur l'espace public sont parfois plus soignés. Les façades en briques ou bien aux enduits ocre et rouge sont alors agrémentées de frontons et de baies en forme d'arcade. Ce paysage presque industriel est surtout visible côté lagune, au sud et à l'est. Les ateliers sont construits jusqu'au bord de l'eau, ne laissant aucune place pour un quai accessible au public. La silhouette de Murano est donc dessinée par une alternance de murs et de bâtiments rudimentaires percés de portes donnant sur des pontons dédiés à chaque entreprise.
Mais quittons la lagune et rendons-nous à Lyon. Lyon, la capitale de la gastronomie, mais aussi de la soie.
Oui, de la soie et des canuts, ces ouvriers artisans indépendants mais dépendants tout de même des gens à qui ils fournissaient le produit de leur travail. Pour des raisons économiques, ils installèrent leur métier à tisser dans le quartier de la Croix-Rousse qui se situe entre le Rhône et la Saône sur une colline dominant la ville. Au XIXe siècle, ce quartier a été bâti d'immeubles conçus pour accueillir cette activité. Des bâtiments de 5 à 6 étages, de grande hauteur sous plafond et largement éclairés par de grandes fenêtres. Des façades très simples, en pierre ou enduites, dont le simple décor consiste en un bandeau à chaque niveau. Un des premiers lotissements construits spécialement pour les ateliers en 1812 est dû à un certain Pierre-Gabriel Demange qui a laissé son nom à une rue située non loin de la maison-musée du Canet. du Canu, qu'on peut visiter maintenant. Le paysage urbain de la Croix-Rousse est donc marqué par cette typologie d'immeubles, avec bien sûr les fameuses traboules constituant des raccourcis d'une rue à l'autre et théâtre de nombreuses révoltes des Canus, justement.
Alors, une occasion pour dire que Homo Urbanicus sera bientôt à Lyon, à l'occasion de la réouverture du musée Gadagne de l'histoire de la ville. Mais revenons à Paris pour évoquer une cité artisanale d'un tout autre genre, Pascal.
Oui, nous allons le long du canal Saint-Martin découvrir la cité Clémentel, au 174 quai de Gemap exactement. Nous sommes loin ici du pittoresque des vieux ateliers à pans de bois, car l'immeuble construit en 1933 est un bâtiment plutôt massif, tout en béton. Les architectes Saunier et Bouillet ont conçu un immeuble de propriété collective dans un esprit fourriériste, mais aussi rationaliste. L'immeuble comporte 5 étages en encorbellement dans sa partie centrale, puis un étage en saillie surmonté de 3 niveaux en gradins. Les 430 ateliers bénéficient de tous les progrès techniques de l'époque, le chauffage central, l'air comprimé, des monte-charges, anticipant ce que seront plus tard les hôtels industriels tels que celui dont nous avons parlé, le Mosinor de Montreuil.
Fin de cette nouvelle édition d'Homo Urbanicus sur l'antenne d'Aligre FM. Elle s'inscrit dans la semaine spéciale artisanat qu'Aligre FM a intitulée « Les mains ont la parole ». Merci à nos invités, Juan Boulout qui fabrique des meubles. Il nous a parlé du Mosinor de Montreuil qui abrite son atelier. Merci également à Philippe Ménard qui nous a accueillis lui aussi dans son atelier situé dans la cour de l'industrie au 37 bis rue de Montreuil à Paris. Merci à Pascal Dutertre qui nous a gratifié de sa chronique Transformation et Permanence mais m'a également aidé dans la préparation de cette émission. La technique était aujourd'hui assurée par Enrico Mastro Giovanni à qui vont tous mes remerciements. Vous retrouverez cette émission en rediffusion sur le site d'Aligre FM. aligrefm.org, accompagné de nombreux compléments et références. Si vous voulez nous écrire, l'adresse est la suivante, homo urbanicus tout attaché at aligrefm.org. Homo Urbanicus est produit et présenté par Eric Dotter. Nous nous retrouvons tous les 2e et 4e lundi du mois à 10h. Merci de votre écoute. Dans quelques minutes, nous retrouvons Vive le cinéma sur l'antenne d'Aligre FM 93.1.
Yes. Vous écoutez Allegre FM 93.1.